Vous et votre voiture avec maître Éric de Caumont. Bonjour maître.
Bonjour à tous.
C'est plus compliqué quand il pleut, hein, surtout en deux roues, à moto.
Oui, c'est plus délicat, on fait attention, mais tout va bien.
Notre avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, on est ravis de vous retrouver. Ça y est, le permis de conduire nouveau est arrivé en Île-de-France. Oui. Une réforme qui transforme la notation en bilan de compétences pour évaluer les forces et faiblesses du candidat. Oui. Qu'en pense le défenseur de ceux qui ont eu plus de difficultés, beaucoup plus de difficultés à avoir leur permis?
Bah écoutez, si c'est une meilleure façon de noter les candidats et finalement de juger de leur aptitude à conduire sans s'arrêter à des, je dirais, à des épreuves couperet qui feraient éliminer quelqu'un qui par ailleurs se débrouille très bien au volant, pourquoi pas ? Si par contre c'est un nivellement par le bas pour rendre le permis plus facile, qu'il y ait plus de reçus, moins d'attentes, et que finalement politiquement ça plaise plus, là je suis un petit peu plus réservé parce que vous savez, moi je suis un défenseur des automobilistes depuis un quart de siècle, je lutte contre la répression qui est le leitmotiv de tous les gouvernements qui se sont succédés depuis ce quart de siècle, mais je ne suis pas non plus pour le fait que des gens soient lâchés sur la route, qui sachent pas bien conduire. Donc, si c'est un nivellement par le bas, là, je suis assez inquiet et je me demande, mais ça n'engage que moi, s'il ne s'agirait pas, dans ce cas-là, de faire arriver sur le marché beaucoup plus d'automobilistes qui vont donner beaucoup plus de clients potentiels pour les radars automatiques et autres
PV. Bon pour vous aussi.
Bah, écoutez, je ne sais pas. Alors, on va voir ce qu'il en est par la suite, ouais. Mais c'est quand même assez étonnant de voir que d'un côté, on enlève de plus en plus facilement et beaucoup de permis de conduire pour des infractions à gauche, à droite, etc., qui sont constatées à raison plus de 10 millions par an par les radars automatiques, et que de l'autre côté, finalement, on fait venir sur le marché, on laisse venir à moi tous les petits contribuables. Je sais pas. On va se poser la question, puis on regardera objectivement, d'ici un an ou deux, ce que ça a donné sur nos routes. Voilà.
Alors les radars, justement, le magazine AutoPlus a récemment révélé que la gendarmerie traquait les détecteurs illégaux, c'est ainsi, ceux qui les achetaient sur Internet. C'est donc illégal d'avoir un appareil qui indique la position d'un radar fixe ou mobile ?
Alors je crois que c'est la première bonne question qu'il fallait poser, effectivement, monsieur Balm. C'est qu'est-ce que c'est qu'un détecteur illégal ? Parce que pour les vieux comme moi, vous pouvez pas comprendre, vous êtes encore jeune et beau, mais pour les vieux comme moi, le détecteur de radar, c'était quelque chose de très clair dans les années 70, 80, 90.
C'est quoi ?
C'était un appareil, c'est toujours un appareil, on l'appelle pas détecteur de radar dans la loi, mais peu importe, qui permettait de repérer les radars de police par les ondes qu'émettent ces radars de police.
D'accord.
Donc c'était un chasseur, voilà. Ouais. Bon. Et bien entendu, c'est parfaitement illégal depuis 1975. Et puis, il faut pas confondre avec ce qu'on appelle aujourd'hui les avertisseurs de radar, les avertisseurs GPS et autres avertisseurs communicants. Vous avez maintenant, surtout les GPS, vous avez des appareils spécifiques qui vous indiquent les positionnements habituels des radars automatiques qui sont toujours là, ou de radars que les policiers viennent placer assez régulièrement à des endroits qui sont des bons coins qu'ils affectionnent.
Et bon. Que les automobilistes se signalent
alors,
entre eux, quoi.
Ça, c'est même pas encore le cas. Ça, c'est le, je dirais, c'est le basique. Ça ne fait jamais qu'utiliser les cartes que d'ailleurs les pouvoirs publics eux-mêmes publient, communiquent. Donc c'est parfaitement légal. Il y a la version, vous avez raison, qui permet de communiquer entre automobilistes en se signalant en temps réel ce qu'ils viennent de voir il y a 5 minutes et donc l'endroit où se situe un radar il y a 5 minutes. Et ça, c'est parfaitement légal. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Donc ça, ce sont des appareils qui sont légaux. Par contre, ce qui n'est pas légal, c'est l'appareil qui va vous permettre de détecter les ondes tout seul, sans l'aide de personne finalement, d'un radar. Ça s'est beaucoup acheté sur Internet ces derniers mois, ces dernières années. Ça se vend toujours beaucoup sur Internet. Et il y a eu un coup de poing, moi je dirais surtout un coup de pub, un coup médiatique, qui a mobilisé des centaines de gendarmes pour essayer de traquer les vilains automobilistes qui avaient acheté ça sur Internet. Je crois que c'est surtout un coup d'épée dans l'eau et une tempête dans un verre d'eau, parce qu'en fait, en pratique, la plupart des personnes, sauf si elles ont tout avoué, tout reconnu bêtement, ne sont pas poursuivables. La plupart du temps, ça remonte à un certain temps, rien ne prouve parce qu'elles ont acheté sur Internet, qu'elles l'ont utilisé ou transporté dans leur voiture. Or, vous avez le droit de l'avoir dans votre cuisine si ça vous fait plaisir et si vous trouvez ça décoratif.
Voilà qui est bon à savoir. Attendant, radar, contravention de stationnement, suspension ou annulation de permis et autres infractions au code de la route, mais aussi accidents et indemnisation, assurance, problème avec un véhicule neuf ou d'occasion, un concessionnaire, un constructeur, un garagiste, toutes vos questions, 01 45 27 107 1, notre expert jusqu'à 11h, maître Éric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes.
Les plus belles chansons françaises sont sur France.
Défense des automobilistes, David à Fontenay-sous-Bois, bonjour David. La question que vous posez, David, dans quel délai sont retirés les points sur son permis ? Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement ?
En fait, voilà, vendredi 2 avril, enfin, un jour près, c'était un poisson d'avril,
ouais.
Je suis verbalisé pour un téléphone au volant, bon, j'ai pas contesté, hein, j'ai même reconnu que c'était complètement bête. C'est vu que c'est le genre d'infraction qu'on peut éviter, contrairement à certaines erreurs parfois sur les excès de vitesse.
Oui.
Bon, mais il se trouve que le 29 mai exactement, je recouvrais tous mes points, vu que ça aurait fait 3 ans que je n'ai pas commis d'infraction.
Oui.
Donc ça met quand même un peu les boules. Donc j'aimerais savoir, dans ce cas-là, je sais qu'il y a certaines infractions, tant qu'on n'a pas payé le PV, on n'est pas retiré en points.
Oui.
Alors dans le cas où c'est les flics qui m'ont arrêté, qu'on fait le procès verbal que j'ai reconnu et signé, quel est le délai en général pour le retrait des points?
Allez, on vous répond dans un instant, David. Vous ne bougez pas. 01-45-27-107-1 pour toutes vos questions à Maître Éric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. 01-45-27-107-1. Le flash info trafic à suivre.
Les experts de 10h à 11h sur France Bleu 107.1. Sur la route, on vit les uns contre les autres. Avec France Bleu 107.1, on fait la route ensemble et ça change tout.
Thierry nous rejoint. Thierry, bonsoir.
Bonsoir.
Et il y a un point noir, porte-maillot.
Dépassez le chacun pour soi. Faites entrer la solidarité routière dans votre autoradio.
L'avenue Malakoff est complètement bouchée. Signalez à tout le monde qu'il vaut mieux éviter ce coin-là.
On fait la route ensemble sur France Bleu 107.1 du lundi au vendredi de 18h à 21h. La route, le métro. Le train, France Bleu 107.1, numéro 1 sur l'infotrafic en région parisienne.
France Bleu 107.1, le flash infotrafic de 10h15 passé. Marine Chaillou au rire de Créteil.
84 km de ralentissement cumulé en région parisienne et toujours 2 accidents à vous signaler. D'abord sur le boulevard périphérique intérieur au niveau de la porte d'Orléans. C'est une moto qui est impliquée ainsi qu'une voiture. Conséquence, ça ralentit dans le secteur. Vous mettez encore 28 minutes pour aller d'Italie à la porte d'Orléans en chaussée intérieure. Un quart d'heure pour aller de Bagnolet à la porte de Bercy. En chaussée extérieure, comptez encore 20 minutes pour aller de Maillot à la porte d'Auteuil. 23 minutes pour aller d'Auteuil à la porte d'Orléans. Au sud de Paris, toujours cet accident sur l'A6 en direction de la province au niveau de Grigny. 2 voitures sont impliquées. Attention, ça pourrait ralentir fortement, rapidement dans le secteur. Sur la 6A, en direction de la capitale cette fois, comptez encore un quart d'heure pour aller de Villejuif à la porte d'Orléans. Et puis à l'ouest de Paris, il y a également un véhicule en panne au niveau de la porte pour arriver sur la porte d'Auteuil. Donc sur la 13, au niveau d'Auteuil, juste avant le boulevard périphérique et la porte d'Auteuil, une voie de circulation est neutralisée sur la droite. Et puis sur la N118, il y a également beaucoup de monde. D'abord, une voiture qui est en panne, qui est en train d'être dégagée en direction de la province. Elle est au niveau du pont de Sèvres et neutralise une voie de circulation sur la droite. Et puis ensuite, encore beaucoup de monde, des temps de parcours encore importants, 25 minutes pour aller du pont de Sèvres au Petit Clamart. Dans les transports en commun, sur le RERD, il y a des personnes sur les voies au niveau des gares de Maison-Alfort et Vers-de-Maison. Et cela occasionne des retards sur la partie sud de la ligne. Et puis, en concernant la grève sur le réseau SNCF, je rappelle que le trafic est perturbé sur l'ensemble du réseau transilien, sauf sur les RER A et E. Alors globalement, comptez aux heures de pointe un train sur trois sur le réseau Paris-Sud-Est, la ligne La Verrière-La Défense, environ 40% du trafic sera assuré. Il y aura également un train sur deux sur la ligne de Paris Nord, ligne H, Paris-Montparnasse, ligne N, ainsi que sur la ligne B et C du RER, avec une interconnexion avec la RATP qui est suspendue en gare du Nord pour le RER B. Et puis il y aura également 60% du trafic sur la ligne K à Paris Nord, sur la ligne Paris Est, Paris-Saint-Lazare, ainsi que sur la ligne D du RER, avec là aussi un trafic suspendu entre Châtelet et Paris, gare de Lyon. Enfin, sur le tram-train T4, il y aura une voiture toutes les 15 minutes sur l'ensemble de la journée.
Le prochain flash info trafic dans moins de 15 minutes. Le temps, il y a de la pluie sur la Seine-et-Marne. Marne à l'heure actuelle, partout ailleurs c'est bien couvert, les nuages qui sont arrivés c'est bien gris avec 13 degrés maxi au thermomètre. Toutes vos questions à Maître Éric de Caumont, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes, 01 45 27 107 1. Nous sommes toujours avec David à Fontenay-sous-Bois. David, vous êtes fait piquer le téléphone portable au volant et vous demandez quand est-ce qu'on va vous retirer. C'est combien de points d'ailleurs, Maître Éric de Caumont, le téléphone au volant?
Alors, le téléphone au volant, c'est 2 points.
Bon.
Et je précise à cette occasion, parce qu'on est là pour renseigner nos auditeurs, que ce n'est interdit que si vous le tenez en main. En d'autres termes, si vous avez un véhicule qui est doté d'un kit main libre, ou si vous avez autour du cou un kit piéton avec des oreillettes, vous n'êtes pas en infraction en téléphonant, en conduisant. Simplement, vous n'avez pas le droit de composer le numéro, de lâcher le volant pour composer le numéro. Donc quelque part, ça pose un problème. Mais si vous décrochez automatiquement et quelqu'un vous appelle, vous n'êtes pas en infraction.
Alors David a été verbalisé le 2 avril, c'est ballot, parce que le 29 mai, il devait récupérer tous ses points pendant presque 3 ans. Il a été sage, mais là, à 2 mètres du bol de sangria.
Voilà, exactement. Quand est-ce qu'on enlève les points? Alors déjà, c'est une très bonne question. Bonjour David, parce que ça va déjà amener une réflexion. C'est que on ne sait pas. Il n'y a pas de prévisibilité en la matière. En d'autres termes, le permis à points qui se veut être un outil pédagogique permettant aux gens d'arrêter avant qu'ils aient plus de permis, en comprenant qu'ils sont en train d'entamer leur capital, est quelque chose finalement de très ambigu, parce que si au moins on vous disait, bon bah voilà, un mois après l'infraction ou après le paiement de l'infraction ou après la condamnation par un tribunal, vous perdez vos points, les gens pourraient un petit peu s'organiser, prévoir, dire bon là il faut que j'arrête, etc. Or, il n'est pas rare que vous perdiez en novembre 2010 des points pour une infraction commise en juillet 2010, alors même que les points de l'infraction de février 2008 sont toujours pas enlevés.
En compte. D'accord.
Donc, comme en plus sur les documents qui vous sont remis, on vous indique que vous êtes susceptible de perdre des points, même si c'est pratiquement toujours automatique, mais il y a parfois de bonnes surprises, et puis des fois quand on se défend, on gagne et on perd pas les points.
Oui, mais dites David.
Non, jusqu'à présent, ça a été... Bon, je suis chauffeur-livreur, donc ça ne discute pas, mais c'est sûr que j'ai entendu dire que, par exemple, en Espagne, les VRP, tout ça, avaient un permis un peu plus adapté à leur profession.
Ah. Ça c'est encore un autre problème.
C'est
un autre problème. Il y a des propositions de loi pour faire en sorte que les professionnels de la route aient plus de points que les conducteurs du dimanche, les sédentaires qui ne s'en servent pas. Mais ça, à mon avis, c'est pas prêt de passer.
Il y avait une question intéressante de David. Oui. C'est tant qu'on paie pas, on nous enlève pas les points.
Alors
c'est vrai, ça ou pas?
Oh là là. Que vous faites bien d'en parler, David. Que vous faites bien d'en parler, Monsieur Balm, parce que c'est une légende. Attention, méfiez-vous de cela. Évidemment, si vous payez, vous déclenchez la perte de points. Mais à l'inverse, c'est pas parce que vous payez pas que vous perdrez jamais vos points. Sinon, il est évident que personne ne paierait jamais en France.
Non, mais en tout cas, retardez jusqu'au 29 mai où il devait tout récupérer.
On retarde un petit peu. Mais il faut savoir, par exemple, que quand vous n'avez pas payé une infraction, une amende, et que, au bout de quelques mois, on passe à l'amende forfaitaire majorée que vous recevez par courrier, ça déclenche automatiquement la perte de points. Donc, de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter.
Ouais,
alors, dans votre cas, David, on va conclure sur le vrai problème qui est le vôtre, c'est-à-dire, est-ce que je vais perdre mon délai de 3 ans qui m'aurait permis de récupérer tous mes points dans un mois et demi? Bon, la réponse théorique, elle est malheureusement oui, car c'est le moment où vous commettez l'infraction qui arrête le chrono. Vous avez commis l'infraction, vous avez normalement cassé votre délai de 3 ans. Maintenant, je vais vous donner une idée. Éventuellement, ne payez pas. Éventuellement, faites une petite lettre de contestation qui va retarder les délais de plusieurs mois. Et peut-être que vous aurez une bonne surprise, on sait jamais, avec l'informatique. Je ne vous promets rien, essayez quand même. De toute façon, vous n'avez plus rien à perdre, car si vous payez tout de suite, de toute façon, vous cassez votre délai.
N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci pour votre appel, David. Olivier à Saint-Épin. Bonjour, Olivier.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous arrive avec les arrêtés préfectoraux?
Disons que je me suis fait verbaliser sur une interdiction, si on veut, de circuler. J'étais en poids lourd, mais logiquement, je voulais savoir si les arrêtés préfectoraux doivent être affichés sur les panneaux d'interdiction.
C'est-à-dire par un arrêté préfectoral, en fait, vous avez circulé sur une voie qui, par arrêté préfectoral, était interdite à la circulation, c'est ça?
Oui, mais voilà.
Ouais.
Sauf que vous n'étiez pas au courant, c'est ça, Olivier?
Pardon?
Sauf que vous n'étiez pas au courant.
Mais disons que j'étais au courant de l'interdiction.
Oui.
Mais je sais que par rapport à une interdiction...
Par rapport à un panneau, c'est ça?
Par rapport à un maire ou une... logiquement, les gendarmes ne sont pas obligés de verbaliser.
Ah.
Alors,
obligé ou pas obligé?
Ah si, Olivier, c'est très clair. À partir du moment où il y a des réglementations, qu'elles émanent, je dirais, qu'elles soient générales pour la France entière ou qu'elles émanent d'un maire dans une commune ou d'un préfet, par exemple, hors de commune, elles sont bien entendu applicables et verbalisables par policiers et gendarmes. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, Olivier, c'est que les réglementations générales n'ont pas besoin d'être affichées, d'être signalées. Par exemple, vous êtes en voiture sur autoroute, il n'y a pas besoin d'un panneau 130 pour que vous sachiez, nul n'est censé ignorer la loi, le code de la route quand il conduit, que partout en France, sur autoroute, c'est 130 km/h, sauf panneau spécifique diminuant, pas augmentant malheureusement, mais diminuant la vitesse. Bon. Et À l'inverse, toutes les réglementations spécifiques doivent être portées à la connaissance de l'usager. Si dans une ville, c'est pas 50 à l'heure, mais 40 ou 45, il faut un panneau. S'il n'y a pas de panneau 40, on peut pas vous verbaliser parce que vous avez dépassé le 40. De la même façon, pour des arrêtés municipaux ou des arrêtés préfectoraux, il doit y avoir un affichage, une façon de porter à la connaissance des usagers.
Sur la route même?
Sur la route même, ça peut être affiché, bien entendu, ça doit être affiché.
Voilà
en mairie,
souvent on a des panneaux jaunes, c'est-à-dire une signalisation temporaire.
Provisoire, temporaire, et puis parfois il y a marqué en dessous que ça vient d'un arrêté du temps, etc. Souvent, quand vous voyez une interdiction de stationner temporaire pour un marché, pour ceci, pour cela, une manifestation spéciale, une course cycliste, en dessous, vous avez l'arrêté qui, sous plastique, pour supporter la pluie, est accroché sous le panneau provisoire, parce qu'effectivement, effectivement, pour être opposable, il faut que ça soit signalé. Donc c'est très clair, c'est très simple et c'est valable pour tout le monde. Écoutez bien, signalisation générale, pas d'affichage. Signalisation particulière, affichage. Sinon, elle n'est pas opposable et vous pouvez pas être verbalisé.
Merci Olivier pour votre appel. Un à Bois-Colombes, James, bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez un retrait de points avec la voiture d'entreprise, le véhicule d'entreprise?
Oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait?
Comment?
Qu'est-ce que vous avez fait?
Un petit excès de vitesse, 56 petit. Au lieu de 50.
D'accord. Donc vous n'avez jamais reçu le PV, en revanche vous avez reçu l'amende, mais où, à la maison?
Bah, disons que l'amende a été transmise à l'entreprise.
Oui.
Et mon patron n'a pas payé le PV. Moi je pensais qu'il l'avait payé et que tout allait bien se passer. Et en fait, chez moi, je n'ai rien reçu du tout, ni amende initiale, ni amende majorée. Et j'ai reçu un jour, 3-4 mois après, un PV de 438 euros, il me semble, à peu près, avec une saisie d'huissier.
Plutôt salé. Plutôt salé, plus de 400 euros. Et du coup, vous en êtes où, là, James? Vous avez payé?
Bah, non, parce que j'ai refusé de payer ça, donc j'ai été voir un médiateur de la République à la mairie.
Oui.
Qui m'a arrangé, tout ça. J'ai été convoqué au commissariat et j'ai payé juste les 90 euros initiales.
D'accord.
Bon, mais ce que j'ai vu sur ce petit truc, parce que j'en reviens un petit peu à l'auditeur qui est passé juste avant,
oui.
C'est pour mes points, je devais récupérer tous mes points, ça faisait 2 ans et demi sans infraction.
Mmh.
Et en fait, ce que j'ai vu à ce PV qui datait de, vu que ça a traîné pas mal l'histoire, ça, il datait de 2008, un truc.
On vous a retiré des points ou pas?
Bah oui, parce que c'était un excès de vitesse, donc il y a un point, ou deux points, je sais plus, pour 50 km/h, il me semble, c'est l'amende qui est plus élevée, mais c'est un point.
C'est un point, James, c'est un point.
C'est un point, oui. Et en fait, j'ai vu que c'est à partir du moment où on paye, les points sont retirés. Mmh. Donc en fait, voilà, je devais récupérer mes points, tous mes points dans 6 mois, et en fait, apparemment, je suis reparti pour 3 ans.
Bon, fallait ne pas payer pour James, maître de commande.
Très clairement, James, il fallait pas payer, effectivement. Ça vous laissait peut-être une chance que ça n'interrompe pas le délai. C'est certain que maintenant que vous avez payé, ça va interrompre le délai, vous allez repartir pour 3 années. C'est d'autant plus bête que, probablement, que la photographie, puisque comme vous n'aviez pas été intercepté, si tant est que ce fut vous au volant de cette voiture-là, d'ailleurs, ce qui reste encore à prouver, il y avait probablement simplement une photo, et probablement, puisque c'est 90% des cas, que la photo était prise de l'arrière, ne permettait pas d'identifier le conducteur, ce qui fait que même si votre patron, qui aurait pu avoir la courtoisie de vous prévenir de ce qu'il faisait, vous avait dénoncé sans en dire plus, eh bien, vous aviez selon toute probabilité la possibilité de contester avoir commis cette infraction, auquel cas vous n'auriez jamais perdu aucun point si vous vous étiez défendu. Et ça, je pense que votre patron vous a pas rendu service en faisant cela. Au demeurant, même au stade où vous aviez l'huissier qui vous apprenait ce qui arrivait, vous auriez encore pu agir et contester. C'est dommage que vous l'ayez pas fait. Malheureusement, maintenant, c'est payé et on peut pas revenir en arrière.
Le conseil, quand on se fait verbaliser, quand on commet une infraction à bord d'un véhicule qui ne nous appartient pas, qui appartienne soit à une entreprise, soit à un copain, quoi.
Et quand on n'est pas arrêté, bien sûr.
Parce
que si vous êtes arrêté, par définition, quel que soit le propriétaire de la voiture, c'est vous le conducteur, vous êtes identifié et c'est vous qui avez à répondre de vos actes. Non, quand il s'agit, effectivement, d'une infraction qui a été relevée au vol, comme on dit. Ce n'est pas du vol, c'est au vol, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Au passage, on va dire. Voilà, c'est le terme exact. Au passage. Qu'il y ait une photo ou qu'il n'y ait pas de photo, parce que maintenant, il y a des policiers et des gendarmes qui verbalisent comme ça sur le bord de la route en relevant l'infraction et le numéro du véhicule. Eh bien, si le véhicule ne vous appartient pas, vous avez tout à fait la possibilité, même s'il vous appartient d'ailleurs, dès lors que le conducteur n'a pas été formellement identifié, de contester l'infraction avec toutes les chances de succès. Donc il faut jamais se précipiter pour payer et reconnaître. Vous avez les moyens de sauver vos
points. En même temps, ça impressionne quand l'amende se monte à 438 euros.
Ça fait peur, mais je dirais raison de plus pour ne pas se précipiter pour la payer et pour essayer de voir quels sont tous les moyens qu'on a de se défendre, tant au niveau de la vente que surtout au niveau des points, parce que c'est ça le problème majeur pour la plupart des gens, et surtout la plupart des gens qui travaillent avec leur permis de conduire, parce que je voudrais le rappeler à cette occasion-là, à tous les princes qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu, de devant ou de derrière, peu importe, le permis de conduire pour beaucoup de millions de Français, c'est pas un permis de loisir, c'est un permis de travail.
01 45 27 107 1 pour tous vos appels. Merci James. Une question express pour une réponse express. On nous demande quelle heure doit figurer sur les PV pour excès de vitesse et celle du délit ou celle de l'édition du PV. Il y a une différence ?
Oui, parce que regardez, vous passez devant un radar, vous êtes arrêté quelques kilomètres plus loin au péage de l'autoroute. Là, le policier vous fait ranger, il vous demande vos papiers, il commence à rédiger le procès-verbal et il vous le remet. Tout ça, ça a pu durer une demi-heure au total. Bon, donc en fait, ce qui doit être mentionné sur le procès-verbal, c'est évidemment l'heure de l'infraction. C'est-à-dire l'heure à laquelle le cinémomètre, le radar, a relevé, ou exactement le policier qui est derrière, a relevé l'infraction. Et donc, c'est bien évidemment antérieur au moment où vous repartez avec le petit carton dans la main.
0145 27 107 1 dans un tremblé en France. Bonjour Martin.
Bonjour à tout le monde, bonjour le maître.
Alors
bonjour,
comme ça, on vous a retiré des points sur un permis que vous n'avez pas ?
Je n'ai pas.
Alors, cette histoire.
J'ai un permis B daté des années 70.
Ouais.
En 90, je pars à l'étranger, parce que je pars en Europe. Ouais. Je donne mon permis, je change un permis. Plus tard, je reviens en 2003 ici, je reviens en 2003 en arrière, et je conduis avec un permis européen.
Ouais. Européen?
Européen, oui, parce que je l'avais changé en 90.
Oui, mais alors, dites-moi Martin, un permis européen, c'est quoi?
Ben, c'est un permis que j'ai eu à l'étranger.
Oui, mais vous l'avez eu où ?
En échange de permis que j'avais.
Attendez, parce que vous partez, j'essaie de suivre moi. Au début, vous passez un permis en France, Martin.
J'ai recherché ici 30 ans, j'ai un permis daté de 70.
Bon, le permis... Attendez, Martin, procédons par ordre. Le permis de 70, il est français.
Il est français.
Vous partez à l'étranger, vous partez, si j'ai bien compris, au Maroc.
Non, au Portugal.
Au Portugal, et là, vous échangez votre permis français contre un portugais.
C'est normal.
C'est normal. Vous revenez du Portugal.
13 ans après, je reviens en 2003.
Et là, vous gardez votre permis portugais, vous n'avez pas passé de permis, vous n'avez pas rééchangé contre un permis français.
Je n'ai pas changé.
D'accord.
Alors là, j'ai toujours des PV, des pertes de points, avec le numéro de permis en question, je n'ai pas depuis 25 ans presque.
Alors je vois très bien ce qui vous arrive, effectivement, on vous retire quand vous commettez aujourd'hui des infractions en France sur votre permis français, le numéro du permis français de 1970 ou 73, là.
Il existe toujours, il est toujours valable.
Ah ben alors, justement, c'est tout le problème. C'est qu'à partir du moment où vous l'échangez contre un permis étranger, il n'a absolument plus d'existence légale, puisque on peut pas échanger et garder en même temps. Donc, vous avez, Martin, un permis portugais. Simplement, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où vous revenez habiter en France, la loi vous oblige à rééchanger votre permis portugais contre un permis français dès lors que vous habitez en France et dans un délai maximum d'un an.
C'est-à-dire que là, il est en infraction depuis 2003.
Si vous êtes depuis 2004 en France et que vous habitez en France et que vous avez gardé votre permis portugais, vous êtes en infraction. On pourrait même vous poursuivre pour conduite sans permis, vous voyez ? Bon, ça serait beaucoup plus grave. D'autre part, qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils appliquent un principe qui est le suivant, c'est que justement, quand vous revenez en France habiter, et même avant ce délai d'un an, si vous commettez une infraction en France avec un permis portugais, la loi exige que vous l'échangiez immédiatement contre un permis français pour qu'on puisse vous enlever les points, justement. C'est très malin, tout ça. Donc, si effectivement vous commettez des infractions en France, que vous êtes en France depuis plus d'un an, et que par ailleurs, vous avez gardé le permis portugais, il est, un, vous êtes en infraction, et deux, il serait normal qu'on exige que vous échangiez votre permis. Par contre, le fait que d'autorité, on vous enlève les points sur un permis français qui n'est pas revalidé, là, personnellement, je pense que juridiquement, ça se discute, c'est pas tout à fait réglementaire. Mais vous êtes quand même globalement et moralement... En situation pas très régulière, et ne vous imaginez pas, et c'est sur ça que je veux conclure, Martin, et à l'intention d'un certain nombre d'autres auditeurs, qu'il suffit, même avec l'Europe, même avec la facilité de circulation, de garder un permis portugais, espagnol, italien ou anglais quand on est revenu habiter en France pour être à l'abri des pertes de points en France sur un permis français. Hélas, ça ne marche pas, sauf si vous ne faites que de courts séjours en France et qu'en fait votre domicile, votre résidence
est à l'étranger,
auquel cas là, bien entendu, heureusement que tous les touristes portugais, espagnols ou belges qui viennent en France se voient pas obligés de prendre un permis français à chaque fois qu'ils commettent une infraction en France, sinon il y aurait des millions et des dizaines de millions de permis supplémentaires en France.
Voilà qui est bon à savoir. Merci Martin pour votre appel. Dans un instant, c'est un Gérard Néry. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Vous avez un permis qui date d'avant 1992 et vous demandez il est non retirable, si on ne peut pas vous le retirer. Pourquoi vous posez-vous cette question, Gérard?
Ben parce que quelqu'un m'en a parlé, m'a dit que dans le cas d'une infraction, on peut, bien sûr, l'infraction étant commise, payer le PV, mais qu'on ne peut pas nous retirer de permis parce que à l'époque, le permis était accordé à vie et donc il n'est pas retirable.
Il n'y avait pas de permis à point. Ouais. Quelqu'un m'a dit, c'est une chanson de...
Ouais, de la femme du président, si mes souvenirs sont bons. Hein. Quelqu'un vous a dit, et Internet surtout a dit et a fait des ravages, dire bon, moi je ne suis pas très internaute, je ne suis pas très technologie moderne, c'est normal, je suis très vieux, moi, hein, je suis du siècle dernier, mais franchement, je suis estomaqué, effaré du pouvoir d'Internet. Parce que il y a effectivement un message qui est passé sur Internet il y a presque un an déjà, bon, et qui incitait, c'est vrai, les gens à le diffuser au maximum autour d'eux. Depuis, je pense, Gérard, que vous êtes le 3552e à me poser la question.
Et je vais vous faire
la même réponse qu'au 3551 précédent, c'est-à-dire que ce qui est marqué dedans, c'est-à-dire que le permis à points n'existe que depuis 92, que ceux qui ont eu le permis avant 92 ne peuvent pas perdre de points, qu'il suffit de, je cite, je le connais par cœur ce message, payer l'amende et contester, ce qui est complètement antinomique, parce qu'à partir du moment où vous payez l'amende, vous reconnaissez, vous pouvez plus contester la perte de points automatique, mais ça fait rien. Et je cite, ceci est réel, point, tous ceux qui ont essayé ont réussi, est un mensonge, est une intox complète, pour une bonne et simple raison. Je vais vous dire, moi j'ai déjà communiqué sur le sujet, sur des médias, notamment des médias écrits, j'ai dit, écoutez, voilà, il paraît que tous ceux qui ont essayé ont réussi, je voudrais qu'il y en ait un qui m'écrive, qui écrive au journal qui transmettra, qui écrive à la radio, qui téléphone, qui dise, voilà, moi j'ai essayé, ça a marché, ça a réussi, ils m'ont pas enlevé mes points parce que je suis d'avant 92. J'en ai pas un. Je cherche désespérément depuis un an à rencontrer un Français qui a réussi. Un, pas deux, un. Il n'y en a aucun. Donc je peux vous répondre de façon formelle que ça ne marche pas. Est-ce que juridiquement, il y a quelque chose qui un jour sera exploité et qui mettra en péril le système pour ceux qui ont eu le permis avant 92? Je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, c'est Gérard, c'est de l'intox complète. Et il faut bien dire clairement que la loi de 89, puisqu'elle a été votée en 89 pour être mise en application en 92, a expressément prévu que, à partir de 92, tous les permis auraient des points, ce qui n'est pas à proprement parler une rétroactivité, puisque on ne vous enlève pas de points, bien entendu, pour les infractions commises avant 92 pour ceux qui avaient des anciens permis. Maintenant, peut-être qu'un jour va y avoir un résultat intéressant juridiquement, on y travaille, on y réfléchit, mais en l'état actuel des choses, Gérard, perdez vos illusions, ne rêvez plus, vous verrez, ils sont très efficaces pour vous enlever des points, même si vous avez eu votre permis comme moi il y a très 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 longtemps.
Voilà qui est bon à savoir pour tout le monde. Merci Gérard pour votre appel. Henri à Pékeuse, bonjour Henri.
Oui, bonjour.
Vous avez connu un problème à la suite d'un achat d'une voiture d'occasion?
Oui, voilà, disons que c'est mon frère qui a acheté une voiture d'occasion il y a un peu plus d'une semaine à un vendeur de véhicules à Saint-Étienne, et il est venu nous voir ce week-end en région parisienne, et est tombé en panne sur l'autoroute. Donc il a fait marcher en assistance et tout ça, il a fait rapatrier sa voiture du côté de Grenoble, le Grenoble, côté Clermont-Ferrand, parce qu'il était par là-bas.
Oui.
Il y a eu un prêt de véhicule et tout ça, donc il n'y a eu pas de problème. Et il a attendu mardi pour avoir l'expertise du véhicule. Et le garage lui a confirmé comme quoi il n'y avait plus d'huile dans la boîte à vitesse. Donc c'était la panne de la boîte de vitesse. Et le garagiste, et donc il était revoir le vendeur de véhicules, et lui, il lui propose de rapatrier son véhicule, mais tout en payant la boîte de vitesse et les réparations.
Bon.
Donc, alors, je voulais savoir ce qu'on pouvait faire, si c'est ce qu'on pouvait faire pour lui.
Bon, alors Henri, vous nous avez bien dit que cette panne lui est arrivée une semaine après qu'il ait acheté la voiture.
Tout à fait.
Et donc, il avait, je suppose, très peu roulé avec.
Tout à fait, oui, oui.
Bon, alors, pour moi, c'est très clair. À partir du moment où vous avez une voiture, c'est à vous de l'entretenir, de surveiller, bien entendu, les niveaux, de faire en sorte qu'elle fonctionne bien.
Avant de partir nous voir, donc.
Bon, et qu'effectivement, vous vous en occupiez en bon père de famille, comme on dit. Maintenant, l'huile de la boîte de vitesse, c'est pas quelque chose sur dont on fait l'appoint habituellement, parce que c'est pas censé être consommé et c'est censé être vidangé de temps en temps, mais rester à niveau constant. En d'autres termes, quand vous achetez une voiture et qu'une semaine après, la boîte de vitesse casse, parce qu'il n'y a pas assez d'huile dedans, pour moi, et sous réserve d'une expertise éventuelle, il est évident que la responsabilité, ce n'est pas votre frère qui l'a, c'est le vendeur professionnel dont je rappelle qu'il est censé, quand il vend un véhicule, s'être assuré qu'il est en parfait état, il est présumé être au courant de tous les problèmes, et donc bien évidemment, l'une des premières choses qu'il a à faire, ce vendeur, c'est de s'assurer que les niveaux sont bons, comme on dit, et qu'il y a de l'huile dans la boîte de vitesse.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là?
Ah ben, dans ce cas-là, non seulement il va se retourner contre lui, et qu'effectivement il va lui ramener la voiture pour qu'il y ait les réparations qui soient faites, mais ça va être intégralement aux frais du vendeur, y compris le rapatriement du véhicule et le coût que ça va représenter, parce que le vendeur a à l'évidence commis une faute en vendant, lui professionnel, un véhicule qui n'était pas en état de circuler, qui avait un problème qui allait se terminer forcément par une casse, et donc... De toute façon, sauf une expertise qui démontrerait que c'est votre frère qui s'est amusé à ouvrir le bouchon de vidange de la boîte de vitesse et à vider toute l'huile, enfin je ne sais pas quelle idée encore plus abracadabrante, manifestement c'est le professionnel qui aura assumé la responsabilité financière totale de cette casse.
C'est la même chose si on achète une voiture d'occasion auprès d'un particulier ?
C'est la même chose auprès d'un particulier, mais la seule différence c'est que le particulier est de la même façon garant des vices cachés du véhicule et de son bon fonctionnement, mais il n'est pas présumé être au courant de tout cela, ce qui veut dire que vous n'aurez pas à prouver qu'il était ou pas au courant pour qu'il soit responsable et qu'il doive vous indemniser. Par contre, vous ne pourrez probablement pas lui demander des dommages et intérêts que votre frère pourra demander à ce vendeur indélicat en plus pour les préjudices qu'il a subis, tant que vous n'aurez pas réussi à démontrer ce qui est présumé pour le vendeur, à savoir que le particulier, vendeur professionnel, pardon, que le particulier était au courant des défauts qu'il a cachés délibérément. Voilà, c'est la seule différence. Et évidemment, il est plus facile toujours de se retourner contre un professionnel avec cette présomption et avec la surface financière qui est normalement la leur. Mais à part ça, il y a la même responsabilité des deux côtés.
Des automobilistes. Bonjour Robert.
Bonjour.
À Nibel, vous avez une saisie sur votre compte bancaire pour un PV que vous contestez, c'est ça?
Voilà. Alors, j'essaye de faire court. 2005, dans mon travail, hein, je travaille dans une entreprise de transport, je conduis un 3 tonnes 5.
Qu'est-ce qui vous est arrivé en 2005?
Alors, 2005, sur la route de Vendôme, j'ai doublé un camion, ligne jaune... discontinue, bon, pas de problème, je me ravale, j'arrive au péage, deux charmants gendarmes qui m'arrêtent au milieu de la route en me disant, c'était à 3 km à peu près, vous avez doublé sur une ligne jaune, je dis comment vous dites ça? Je dis comment vous pouvez le voir à 3 km? Et ils m'ont dit, il y a l'hélicoptère là-haut.
Et heureusement que vous deviez faire court, Robert. Non, expliquez-nous, vous contestez ce PV, je suppose que vous avez eu amende majorée, tout le process quoi.
Le problème, c'est que j'ai écrit, quand j'ai eu cette amende-là, j'ai écrit en demandant la preuve de ce qu'on me reprochait.
Ouais, et alors?
Des courriers, jamais eu de réponse. Okay. C'était en 2005.
Bon, et aujourd'hui, on vous prend l'argent sur votre compte bancaire.
Voilà, et là, je viens de voir, là, il y a 8 jours, saisi opposition sur mon compte bancaire. Bon. Ils m'ont pris 100 € parce que c'est tout ce qui restait.
Ouais.
Et je conteste toujours, mais c'est comme si je faisais rien.
Bon, maître de comment?
Alors, une question, Robert. Bonjour, Robert. Déjà, est-ce que vos contestations ont été effectuées par courrier recommandé?
Bien sûr.
Bon, donc, vous avez agi intelligemment et vous avez le droit de votre côté. À partir de là, vous avez eu des gens à qui vous avez adressé des contestations recommandées, donc ils devaient en tenir compte, soit en classant l'affaire sans suite, c'est très rare, soit à ce moment-là en transmettant l'affaire devant un tribunal pour que vous puissiez vous défendre, vous expliquer, discuter, contester, demander comment on pouvait prouver l'infraction qu'on vous reprochait, etc., etc. Ils sont passés outre. Je vais vous dire, hélas, et c'est une honte, c'est très fréquent. Donc, vous avez maintenant une saisie sur votre compte bancaire. Eh bien, si vous n'avez pas eu d'autres actes, je dirais, qui laissaient des traces de date, notamment des traces écrites aussi, et que vous auriez laissé passer sans rien faire, vous avez parfaitement le droit de faire à nouveau un recommandé et de vous fâcher en disant « j'ai demandé à avoir le droit de me défendre, on ne m'a pas répondu, on en est arrivé à la saisie, immédiatement je fais opposition à cette saisie et j'exige de passer devant le tribunal ». Et là je peux vous dire qu'ils sont obligés de le faire, sauf à risquer la correctionnelle. Parce que pour un fonctionnaire, un représentant de l'État, traiter une contestation qui a été faite dans les règles, dans les normes, dans les formes, par le mépris et en arriver jusqu'à une saisie sur un compte bancaire, ça s'appelle de la concussion ou encore des mesures destinées à faire échec à l'application de la loi et ça relève tout simplement du tribunal correctionnel. Donc je peux vous dire que si vous vous fâchez toujours en recommandé en disant cette saisie, vous allez me rendre l'argent et vous allez me faire passer devant un tribunal immédiatement, sinon c'est moi qui prends l'initiative de vous traîner en correctionnel, je peux vous garantir que vous allez enfin obtenir gain de cause, en tout cas passer devant un tribunal.
Vous vous tiendrez au courant dans vos démarches. Merci pour votre appel, Robert. Et merci à vous, Maître Éric Decaumont, avocat spécialisé dans la défense des automobilistes. Pour en savoir plus, on peut consulter votre site internet maître-de-caumont.com, les www.maître-de-caumont.com.
.fr.
.fr aussi, ça
également,
marche.
les deux marchent très bien. D'accord. De toute façon.
Allez, on vous retrouve dans 15 jours. Merci à vous et bonne journée.
Au revoir.